Tous les jours à partir de 9h, l'équipe de Café Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Au Café Service, l'émission libre au service de la radio de la paix.
En effet, bon nombre de Congolais s'adonnent aux activités des champs. Certains le font pour des besoins domestiques et beaucoup d'autres pour des raisons économiques. Malheureusement, les récoltes ne sont pas toujours fructueuses par manque de connaissances des techniques de fertilisation du sol. Alors, quelles sont ces techniques? Nous en parlons donc avec notre invité, ingénieur Bruno Kitiaka, qui est d'ailleurs en ligne. Bonjour, ingénieur Bruno.
Bonjour, je suis Longendo.
Alors, existe-t-il des techniques de fertilisation du sol particulières aux activités champêtres?
Oui. On ne sait pas produire davantage dans un sol pauvre si on ne sait pas améliorer d'abord la qualité du sol. Donc, il est important d'avoir de maîtriser les pratiques de fertilisation du sol pour espérer un rendement meilleur.
Alors, une curiosité, est-ce que seules les cultures maraîchères qui sont liées aux activités champêtres ou bien même les cultures ouvrières aussi sont concernées?
Non. Ce n'est pas seulement les cultures maraîchères. Même les cultures vivrières aussi ont besoin d'une bonne fertilisation pour améliorer les rendements. Donc, la fertilisation ne concerne pas seulement les cultures maraîchères, mais ça concerne aussi les cultures vivrières.
Alors, les techniques diffèrent-elles des unes et des autres?
Oui, tout à fait. Quand on s'en va sur une culture maraîchère, on a une spécialité des engrais généralement utilisés. Et dans les cultures vivrières aussi, il y a aussi d'autres pratiques qu'on peut utiliser pour fertiliser les sols.
Et même la façon de s'y prendre, cela diffère.
Bien entendu.
Alors, si vous pouvez peut-être éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent en ce moment, quand nous sommes dans une culture maraîchère par exemple, et quels sont, comment doit-on fertiliser le sol?
Oui, la fertilisation en fait c'est quoi? C'est apporter les éléments nutritifs dont la plante a besoin pour son développement. Et pour que la plante vous donne un meilleur rendez-vous. Si je veux, c'est l'aliment de la plante. Alors, dans la culture maraîchère, on utilise des fumiers organiques, donc qu'on appelle généralement matière organique, ça peut être d'origine animale, donc les fumiers, ça peut être de fientes de poules, ça peut être les lisiers de porc, et ça peut être aussi d'origine végétale. Là, nous avons les composts, nous avons les engrais verts et tout cela. Et en dehors de ça, il y a aussi des engrais. Généralement, dans les cultures maraîchères, on utilise l'urée et le NPK. Ce sont les deux engrais généralement utilisés en culture maraîchère. Mais avant d'utiliser les engrais, la pratique exige qu'on améliore d'abord la structure du sol. Donc il faut qu'on améliore l'état du sol à utiliser à bon escient les engrais chimiques. C'est pourquoi nous recommandons toujours d'utiliser la matière organique avant de penser à utiliser les engrais. En fait, les engrais chimiques seuls sur un sol qui n'a pas une bonne structure ne servira à rien. Je vous donne un exemple. Sur un sol sablonneux, si vous mettez des engrais, ça ne va pas profiter, ça va lessiver. Parce que le sol n'est pas en mesure de contenir cet engrais afin de le mettre à disposition de la plante. Donc voilà un peu à ce qui concerne les cultures maraîchères brièvement.
Oui, parce que nous sommes dans la culture maraîchère, pour aider rapidement nos auditeurs, quelles sont les étapes à respecter pour la fertilisation du sol dans les cas d'espèces?
Bon, en culture maraîchère, nous recommandons d'abord de faire un bon champ de sol.
Un bon champ de sol?
Un bon champ de sol, c'est-à-dire un sol qui a une structure, je dirais, à mesure de conserver les engrais, parce que les sols sableux sont vraiment évités en culture maraîchère. Les sols sableux arénés sont les meilleurs. Alors, il faut aussi absolument mettre les matières organiques, amender les sols, parce que les amendements, ça améliore la structure du sol. Donc, vraiment, les engrais qui améliore la fertilité, donc les éléments nutritifs. Donc au départ, avant de penser à mettre des engrais, nous pensons toujours aux paysans d'améliorer d'abord la structure du sol en y apportant de la matière organique. Je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être d'origine animale, comme les pieds de porc, comme les champs de poules. Ça peut être d'origine végétale comme le compost.
Voilà.
Donc si on a amendé le sol avec la matière organique, ça permet à ce que les engrais que vous mettrez par après puissent être utilisés par votre plante à bon escient. Et après que vous pouvez penser ajouter de l'engrais, ajouter de l'urée selon les cultures. À ce sujet aussi, il faut faire la part des choses. Il y a des cultures qui peuvent utiliser de l'NPK, il y en a d'autres aussi qui peuvent utiliser de l'urée. En fait, le NPK, là, vous avez trois éléments, l'azote, le phosphore et le potassium, qui sont les éléments majeurs dont la plante a vraiment besoin, en grande quantité. Mais il y a aussi des éléments minéraux comme le calcium, qui améliore l'acidité, qui réduit l'acidité du sol. Mais il y a aussi des oligos éléments, bon, on ne va pas trop occuper de cela, c'est aussi des molybdènes, des cuivres, etc. Donc, il faut savoir quelle culture vous allez faire. Si par exemple vous avez affaire aux cultures de légumes fruits, vous aurez affaire avec un engrais qui a un pourcentage élevé de phosphore. Et si vous avez un légume racine, de légumes qui accumule les sucres ou les réserves sous forme de tubercules, là vous aurez besoin de la potasse. Donc vous aurez une formule avec un peu plus de potasse que les autres éléments. Bien entendu, les cultures, le légume feuille, c'est bien l'azote. Donc l'azote est l'élément qui favorise le développement végétatif des plantes.
Mais si je comprends bien, Bruno Kitaka, vous avez parlé d'abord de faire un bon soin du sol, tenir compte de sa structure. Le sol ne doit pas être trop sablonneux, c'est ce que vous avez dit. Il doit plutôt être sableux, argileux. C'est ça ce qui est recommandé. Et après, il faut amender ce sol, bien entendu, avec soit des fumiers ou encore avec des engrais. Voilà. Et après, améliorer le sol. Et quelle est l'étape qui vient après?
Oui. Après, quand vous avez, il y a aussi le principe de dosage. Il faut savoir quelle quantité vous allez utiliser par rapport à vos besoins. Bon, c'est là que vous se pose un problème. Parce que généralement, nous ignorons la quantité des éléments nutritifs qui sont dans le sol parce que nous n'avons pas les moyens de faire des analyses du sol. C'est comme ça que les dosages que nous mettons, que nous appliquons, sont vraiment un peu au hasard. Nous n'utilisons pas des analyses exactes pour dire quelle quantité la plante a, quels sont les gaps, et puis qu'est-ce que nous pouvons compléter pour compléter. Voilà un peu la
question. Je ne sais pas quel terme que je peux
les doses d'engrais sont connues, donc par rapport aux superficies.
Oui, je ne sais pas quel terme il faut utiliser, hein, parce que quand on parle par exemple de pH, le potentiel d'hydrogène au niveau du sol, ça va être autour de combien à peu près?
Non, le pH doit être au niveau de la neutralité, autour de 7. Ça, c'est un bon sol. Si le pH est en dessous de 5, le sol est trop acide. À ce moment-là, il limite la stimulation par la plante des éléments nutritifs, surtout les oligo-éléments et les éléments mineurs, qui jouent aussi un rôle important. Donc, c'est pourquoi il faudra que le pH soit au niveau de la neutralité, donc un pH neutre, au lieu que ça soit trop acide.
Oui, si vous pouvez peut-être expliquer un peu pour les communs mortels, le pH, c'est quoi au juste? Bon, nous, en France, on sait que c'est le potentiel d'hydrogène, mais en termes un peu simples, compréhensibles, c'est quoi?
Bon, le pH, c'est une échelle qui va de 0 à 14. Et la neutralité, c'est autour de 7.
Mais c'est quoi au juste, pour quelqu'un qui ne comprend pas?
Oui, ça nous indique simplement le taux d'acidité.
Donc l'acidité au niveau du sol. Donc
voilà,
il faut savoir si le sol contient de l'acide ou l'acide.
Un sol acide, ouais. Et un sol basique.
Okay.
Le sol basique, c'est en dessous de 7. Et le sol acide plutôt, en dessous de 7. Et le sol basique, au-delà.
Alors, donc là, nous sommes dans la culture maraîchère. Le pH, c'est-à-dire le taux d'acidité tolérable, c'est au niveau du 7, niveau 7.
Oui.
Voilà. Alors, donc, vous avez parlé des dosages, donc il faut vraiment qu'on en tienne compte, mais il y a quand même des difficultés à ce niveau.
Oui, les difficultés, c'est par rapport aux techniques même d'épandage. Parce qu'on doit constater que les gens utilisent les engrais abusivement, ils mettent trop peut-être là où on n'a pas besoin, et puis il faut qu'on perde énormément de l'argent. En croyant et en mettant beaucoup plus d'engrais, on aura beaucoup plus de production, et pourtant, ce n'est pas ça la réalité. Donc, il faut mettre de l'engrais généralement comme exigé, hein? Donc, il ne faut pas aussi aller au-delà des doses recommandées.
Voilà, là nous avons parlé des cultures maraîchères, on va aborder aussi des questions sur les cultures vivrières, mais il est temps pour nous de rappeler à nos auditeurs, et surtout ceux qui sont vraiment très 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 férus de l'agriculture et qui aimeraient bien, ou soit se lancer aussi dans cette exercice, voilà, de vouloir nous faire parvenir quand même leur réaction au 081 890 63 94 pour les appels, ou encore au 081 070 20 50 pour les SMS.
Chaque jour, la fréquence de la PMU le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Voilà, Bruno Kitiaka, nous avons en ligne Ismaël Mumpoi qui nous appelle de Lubumbashi. Bonjour Ismaël.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre préoccupation?
Et ma préoccupation est de savoir pourquoi, souvent pour fertiliser le sol, nous n'avons pas du tout les engrais chimiques. Et qu'est-ce que la population peut faire pour qu'elle puisse avoir des produits à son temps? Et en plus de cela, j'avais encore une petite suggestion concernant la fertilisation du sol. Et comme les gens diront toujours, le sol, il n'y a pas la fertilité. Ce que nous-mêmes, la population, devons faire et tenir à haute estime pour avoir les produits. Et souvent, si nous faisons d'abord les haricots, on appelle ça en médecine viande végétale. Si nous avons souvent l'habitude d'utiliser ce genre d'aliments, ça nous permettrait de fertiliser et le sol. En fait, alors que nous restons un peu si longtemps afin que nous puissions encore produire dans un moment opportun. Et la population en soi, est-ce qu'ils prennent au sérieux même la paix ou une cultive? C'est ça la question un peu de savoir. Est-ce que pour les hauts ils sont informés même cette population? C'est ça mes préoccupations pour la population et pour l'invité aussi.
Voilà, merci Ismaël, Bruno Kitiaka. C'est vrai, bon, dans certains coins, les engrais ne sont pas à la portée de tous. Hein. Quelle est la solution palliative par rapport à ça?
Bon, je voudrais rassurer Ismaël qu'on peut aussi produire sans les engrais. C'est faisable. C'est vraiment très faisable. Il suffit seulement d'avoir une bonne quantité de matière organique. Je crois que si vous pouvez concevoir une compostière qui vous produit régulièrement du bon compost, vous n'avez pas besoin des engrais. Des fois, c'est ancré dans la mentalité des paysans qui pensent que sans engrais, ils ne vont pas produire. Mais si vous avez de la matière organique à côté, je crois qu'il ne peut pas se poser de problème et vous pouvez produire. Il y a des exemples comme ça dans des villages. Vous allez, on vous dira que nous, ici, on produit des légumes. On produit tout ce qu'on veut produire sans engrais. Donc, on n'est pas obligé absolument d'utiliser les engrais pour produire.
Mais quand vous parlez de matière organique, aider un peu les communs des mortels, qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser dans la place de matière organique?
Si vous êtes non loin des élevages, vous pouvez utiliser le fumier des bovins, vous pouvez utiliser la chenille des poules, ça c'est des bonnes matières organiques. Ils ne vont pas vous exiger d'acheter encore des engrais.
Oui, mais M. Bruno, une question de curiosité. Dans la culture maraîchère, c'est vrai que vous avez donné des étapes pour fertiliser les sols, mais quelle est la variété de cette culture qui est beaucoup plus exigeante, qui exige vraiment une fertilisation du sol rigoureuse?
En général, toutes les légumes exigent. Toutes les légumes exigent de la matière organique et une bonne fertilité. Donc une plante ne peut pas se développer si elle ne se retrouve pas dans les meilleures conditions d'alimentation. Donc il doit avoir un sol bien structuré, un sol amendé, un sol fertilisé. Mais le vrai problème, c'est la disponibilité. Généralement, dans les villes ou dans les centres, dans les périmètres maraîchers à Kinshasa et même dans les Bas-Congo, c'est difficile de trouver de la matière organique. C'est là où se pose le problème. C'est dans ce contexte-là que le maraîcher pense qu'il faut utiliser beaucoup d'engrais, surtout quand on fait de l'agriculture intensive. On pense utiliser beaucoup d'engrais pour améliorer le rendement. Je voulais revenir un peu avec ce que Israël disait tout à l'heure, pour fixer qu'il y a des cultures qui peuvent aussi enrichir le sol. Surtout en culture vivrière, si vous utilisez des cultures comme le soja, en général les légumineuses. Hein, les légumineuses, ce sont ces plantes-là qui nous donnent des gousses. Alors, si vous utilisez des cultures comme le soja, le soja a une faculté de fixer l'azote atmosphérique au sol. Et à la prochaine saison, vous aurez moins de problèmes de fertilité. Parce que le soja aura fertilisé votre parcelle.
Donc, si je comprends bien, la fertilisation du sol, c'est la condition sine qua non pour une culture agréable, pour arriver quand même au résultat escompté.
Exactement.
Voilà. Alors, quand il s'agit des sols d'ouverture, des sols qu'on n'a pas encore utilisés, je crois que là, le problème ne se pose pas, il n'y a pas trop d'exigences.
Non, c'est des sols d'ouverture, il n'y a pas trop de problèmes. Là, si vous allez même dans les villages, dans ce genre de sol, on ne met même pas un seul engrais, mais on produit des quantités énormes. Donc, ce sont les meilleurs sols, que ce soit en culture vivrière ou en culture maraîchère.
Ouais. Bah alors, parlons maintenant de la culture vivrière. Avant qu'on aborde cette question, il y a quand même un auditeur qui est en ligne, Willy Lubuika, qui est à Lubumbashi au Katanga. Willy, bonjour. Bonjour Willy.
Bonjour monsieur.
Quelle est votre préoccupation?
Bien, je suis quand même très intéressé par la question qui est débattue sur votre chaîne. C'est que je voudrais demander à notre invité, est-ce qu'il apprécie la technique de biocharbon? C'est une technologie connue depuis la nuit des temps, mais qui revient aujourd'hui parce que tous les scientifiques sont unanimes que ça peut améliorer, surtout dans les pays du tiers-monde, ça peut améliorer quand même les apports en engrais localement. Qu'est-ce qu'il en pense?
Bruno Kitsaka.
Je n'ai pas bien compris quelle technique
exactement. Oui, Willy parle de biocharbon. Oui, c'est biocharbon, Willy.
C'est ça, oui.
Voilà. Je voulais parler de biocharbon, la technique utilisée autrefois, qui refait surface. Voilà. Quel commentaire faites-vous par rapport à ça? Est-ce que c'est une bonne technique?
Oui, c'est une façon de fertiliser, mais c'est pas encore très visualisé dans notre pays. Ce qui fait que beaucoup de gens ne savent pas comment s'y prendre. Mais il y a d'autres techniques qui sont similaires à ce biocharbon. Ce qu'on appelle l'écobillage, ça consiste à brûler les feuilles mortes des tiges au sol et à retourner le sol. Ça, dans les Bas-Congo, ça donne quand même de bons résultats.
Donc, ouais. Biocharbon et écobillage, c'est pareil.
Oui, c'est presque la même matière parce qu'on utilise le bois. On utilise le bois brûlé.
Le bois brûlé et puis on en fait le fumier.
Oui.
Voilà, alors on parlait avec vous, Bruno Kiseka, du sol d'ouverture, qui ne posera aucun problème, surtout, que ce soit au niveau de culture vivrière ou en culture maraîchère.
Oui, le terrain d'ouverture, c'est vraiment l'idéal. Mais en dehors de ces conditions-là, on conseille actuellement de faire de cultures préalables de Mukuna. Mukuna, c'est une légumineuse ou des spinosanthes, des cultures comme ça. Mais ces pratiques-là ne sont pas encore vulgarisées. Hein? Au lieu de, à la première place de fumier ou de matière organique comme la culture maraîchère, on fait une plantation de Mukuna, on va labourer, on va l'enfouir dans les sols. Quelques temps après, on peut mettre les maïs. Ça donne de très bons résultats. Malheureusement, cette pratique n'est pas encore vulgarisée et ça est certain fou.
Voilà.
Mais cela, on peut toujours utiliser des engrais dans les cultures vivrières.
Alors pour certains, j'espère, comme vous, c'est, l'idéal c'est d'appliquer aussi la culture des rotations pour ne pas trop utiliser les engrais, pour ne pas trop recourir aux engrais. La culture des rotations, c'est-à-dire abandonner un terrain pour un autre, laisser l'autre en jachère. Combien de temps faudrait-il laisser un terrain qu'on a déjà utilisé en jachère?
Bon, maintenant, il se pose de plus en plus de problèmes fossiles. Les espaces cultivés sont de moins en moins, sont de plus en plus réduits, et il se pose ce problème-là. Alors, la pratique des jachères ne tient presque plus, parce que les gens ont envie de produire chaque année. Mais ce serait une solution idéale pour laisser le terrain en jachère pendant quelques années, y revenir 3-4 ans après. Pendant ce temps-là, la terre s'est reconstituée, il y a la végétation qui a poussé, qui a fait tomber des feuilles, qui a fait des limites, et ça vous fait un bon sol. Et malheureusement, dans la pratique, c'est difficile de demander aux gens de laisser le terrain en jachère. Mais la pratique des rotations serait aussi l'idéal, ce serait aussi une alternative. Parce que à ce moment-là, vous utilisez des plantes qui ont des exigences différentes. Quand vous mettez le maïs va exporter plus le phosphore. Et quand vous mettez les arachides, il va exporter plus le potassium. De cette façon, vous pouvez roter si c'est les cultures sur le même terrain, avec une bonne possibilité d'avoir de bons résultats.
Voilà. Alors Bruno, en cas par exemple de l'association des cultures, que ce soit au niveau des cultures maraîchères ou encore cultures vivrières, faudrait-il appliquer les mêmes techniques de fertilisation du sol?
Oui, mais le vrai problème, il faut savoir comment il faut associer les cultures, surtout en culture maraîchère. Il ne faudra pas associer des cultures qui vont se faire une compétition. Ça signifie que les cultures qui ont les mêmes besoins en éléments négatifs. Donc là, vous aurez une concurrence qui fera que vous risquez de ne pas avoir de bons résultats sur les deux spéculations que vous avez mis en place. Et il faudra bien choisir quelle culture que vous allez associer. Il y a la concurrence par rapport aux éléments négatifs, il y a la concurrence par rapport aux espaces. Donc il faut tenir compte de ces éléments avant de choisir quelle association vous voulez faire.
Bah, est-ce qu'il y a une différence au niveau des étapes à suivre quant aux cultures maraîchères et aux cultures vivrières?
Bah, le pandac, c'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose. Il n'y a pas vraiment de différence significative. Mais la technique, c'est la même. Donc, on met face au tour, face au fait des sillons entre les lignes. Et on n'est pas de l'engrais, bon, ça va diffuser dès qu'on va arroser, dès qu'il y aura des pluies. C'est pratiquement la même technique.
Et le seuil tolérable pour le pH, donc le taux d'acidité du sol, est le même?
Bon, c'est là le problème. Parce que nous, c'est difficile d'emblée de dire que ce sol-là est acide, ce sol-là n'est pas acide. À moins que vous ayez un pH net pour mesurer un peu le taux d'acidité. Mais par expérience, il y a certaines plantes qui nous indiquent quand même que ce sol-là est acide. Je vous donnerai un exemple, l'Emperata cylindrica. Je ne sais pas comment l'expliquer à l'Ingala. Cette taille-là, vous indiquez que ce sol-là est acide.
Oui. Ben alors, j'aimerais avoir une idée. Quelles seront les conséquences, ou quelles seront les conséquences au cas où le pH n'est pas au niveau du sol des seuils tolérables, quoi, ou peut-être en dessous, ou à plus de 7.
Oui, la conséquence, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que si le sol est trop acide, il va limiter l'assimilation des éléments nutritifs par la plante. Vous savez, quand vous mettez des engrais ou le sol lui-même a des éléments nutritifs, ces éléments sont assimilés par la plante et la plante se développe et vous donne le rendement. Et si le sol est trop acide, il limite, il bloque l'assimilation de ces éléments nutritifs. Les éléments nutritifs seront là, mais ne seront pas utilisés par la plante. C'est ça, en fait, le problème.
Docteur Marc Assani, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Gérard et bonjour à notre invité.
Oui, docteur, quelle est votre question?
Bon, moi, j'aimerais un peu savoir dire à notre invité qui nous précise un peu, parce qu'il a cité les différentes sortes des engrais qu'il faut utiliser, il a cité entre autres l'IRÉE et le NP, NPK.
Oui.
Et alors, je voulais savoir dans quel cas il faut utiliser l'IRÉE et dans quel cas il faut utiliser le NPK. Et concernant le NPK là, parce qu'il a dit qu'il faut utiliser pour les gens des légumineuses, il faut utiliser l'azote, l'autre genre, il faut utiliser les phosphores, et l'autre genre, il faut utiliser les potassium. J'aimerais savoir, est-ce que le NPK, c'est un engrais qui est composé de ces trois éléments, ou bien il existe un engrais qui a et chacun des éléments là, c'est ça ma préoccupation.
Voilà, sinon le NPK, je vois déjà N, c'est
l'azote. Le NPK, c'est un engrais composé.
Oui.
C'est un engrais composé, je dirais tertiaire, parce qu'il a trois éléments, l'azote, le phosphore et le potassium.
Donc le N là représente l'azote, ça il faut le dire, donc dans les tableaux, le neuvième, hein, donc oui. Les éléments chimiques, vous avez le N qui est l'azote, et le P qui est le phosphore, et le K qui est le potassium.
Voilà.
Voilà, donc
il existe plusieurs formules de NPK sur le marché. Bon, le plus connu, c'est le NPK 17-17-17. Mais en dehors de ça, il y a aussi d'autres formules. 10-18-20, 10-12-20. Donc, il y a plusieurs formules. Maintenant, vous allez choisir votre NPK en fonction de votre culture. Moi, par exemple, si je veux faire la culture de la forme de terre, je vais choisir une formule qui a un peu plus de potasse, un peu moins d'azote, et un peu équilibré en phosphore. C'est comme ça, je peux choisir les 10, 12, 18. Mais quelqu'un qui fait le maïs, par exemple, quelqu'un qui fait le maïs, choisira une formule de NPK qui a un peu plus de phosphore. Et les légumes frais, on utilise généralement des l'IRÉE. Mais il faut aussi utiliser un peu de NPK pour améliorer un peu la consistance. Parce que quand on met seulement de l'IRÉE, la plante se développe très vite végétativement, mais il n'est pas solide, il n'est pas résistant. C'est ça un peu le problème.
Voilà, on va conclure avec vous, Bruno Kitsaka. Nous retenons qu'il s'agisse de cultures maraîchères ou des cultures vivrières, les étapes de fertilisation du sol sont les mêmes. D'abord, il faut faire un bon choix du sol, tenir compte de sa structure, ne pas avoir un sol sablonné, mais plutôt un sol sablo-argilé. C'est ça l'idéal. Amender le sol avec les éléments nutritifs, vous avez cité l'azote, le phosphore, le potassium, améliorer bien le sol et tenir compte du dosage. Et là, le pH indiqué, c'est le seuil à respecter, c'est le 7. Vous l'avez dit, c'est le même, mais c'est vrai que ça peut varier. En tout cas, le pH, c'est parce que c'est par rapport aussi au taux d'acidité, et par rapport à la quantité des acides au niveau du sol. Et s'il y a trop d'acide, ça ne peut pas permettre à la plante de se développer comme il faut. Bruno Kitsaka, merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir répondu aux questions des auditeurs qui sont intervenus dans cette émission. On vous retrouve très prochainement.
Merci beaucoup, Jérémy. Merci à tous les auditeurs.